aujourd'hui à Rencontre, un théologien qui s'est intéressé à 250 sectes et gnoses nouvelles, Richard Bergeron. Richard Bergeron est un théologien, professeur, qui est surtout connu pour avoir écrit un bouquin intitulé « Obéissance de Jésus et vérité de l'homme ». Mais il avait écrit auparavant une thèse sur laquelle je n'ai pas pu mettre la main, je n'ai pas pu lire, mais qui existe, « Les abus de l'Église d'après Newman ». Mais il vient d'écrire un bouquin qui, récemment, un livre qui a fait la manchette de tous les journaux de fin de semaine, avec une grosse photo d'un homme, évidemment, qu'on a trouvé bien sympathique. Un livre, donc, qui porte sur les sectes et les gnoses nouvelles. Et il en a recensé, simplement dans la région métropolitaine, environ 250, ce qui m'a quand même étonné. Mais ce qui m'étonne aussi, quand même, Richard Bergeron, c'est de vous voir aborder ce sujet-là. Pour un théologien, d'une certaine façon, j'oserais dire que ça ne fait pas sérieux.
Bon, en effet, il faut que la théologie ne soit pas toujours sérieuse quand même. Mais je pense que c'est un sujet extrêmement sérieux pour la théologie. Pourquoi? Parce que le rôle de la théologie, c'est précisément de se confronter aux différentes expériences humaines. Et le phénomène des gnoses et des nouvelles religions est précisément une expérience nouvelle auquel nous devons nous affronter. Il m'a semblé extrêmement important que la conscience chrétienne s'interroge, se laisse interpeller par ce phénomène-là et essaie d'offrir une certaine réflexion sur le phénomène. Et c'est pourquoi la réflexion théologique est toujours une réflexion qui essaie de situer le problème à l'intérieur d'un champ interprétatif, d'un champ de compréhension, et essaie d'offrir à la fois aux chrétiens de chez nous et à la fois aux gens aussi qui sont à l'intérieur de ces groupes-là un certain réseau de compréhension qui peut les aider à se comprendre eux-mêmes et aux chrétiens à mieux se situer devant un phénomène comme celui-ci.
Bon. Je vais revenir un peu sur ma question et je vais tâcher d'être moins volage, un peu plus sérieux. J'ai dit, et c'est, je crois que c'est quand même pour une part la réaction d'un certain public, n'est-ce pas, de dire ces religions nouvelles, c'est pas sérieux. C'est une part de réaction. Et vous, vous les avez pris au sérieux. Première chose. Ou une autre réaction, n'est-ce pas, une autre réaction du public, c'est d'être affolé, d'avoir peur, en particulier à la suite d'une série d'événements. Pensons par exemple à ce suicide collectif d'un groupe sectaire, n'est-ce pas, en Amérique du Sud.
Oui, sur la montagne de l'Éternel à Basse-Bébiaque.
Bon, voilà, etc. Ou par exemple, ce qui peut se passer chez certains jeunes que l'on dit être tout à fait aliénés lorsqu'ils... Alors donc, il y a à la fois une crainte, une peur, me semble-t-il, en tout cas réaction primaire, et d'autre part, donc, c'est pas sérieux ce genre d'affaire-là. Comment vous réagissez à ces réactions, justement?
Ouais, moi, je pense que, comme dans tout groupe, il y a à la fois du bon et du pas bon dans ces différents groupements religieux. On a des excès, évidemment, qui s'expriment dans tout cela. Moi, je dirais ceci. Ce qui m'apparaît extrêmement sérieux dans ces mouvements religieux, dans le fond, c'est la revendication qu'ils portent sur l'homme. En définitive, ces mouvements religieux essaient d'apporter une parole qui veut être une réponse à l'angoisse humaine actuelle. Il faut dire que lorsque nous sommes passés au Québec d'une société traditionnelle où le cadre des valeurs était bien défini, où le cadre d'interprétation du réel était offert à ton expérience, lorsque nous passons d'une société de ce type-là à une société de type séculier, eh bien, la religion qui définissait les valeurs, qui offrait le cadre d'interprétation, se trouve disqualifiée par le fait même. Mais l'individu garde ses problèmes, garde ses difficultés, garde ses questions métaphysiques, son angoisse, et il ne se tourne plus vers l'Église d'autrefois pour recevoir une réponse, pour recevoir une indication. Voici que le gourou arrive, le leader religieux arrive, et lui dit « Voici, nous avons une réponse pour toi ». Alors, on offre un cadre de réflexion, de pensée, un cadre d'expérience assez étroit, assez bien identifié, dans lequel on entre l'individu et dans lequel on lui permet précisément de découvrir certains aspects de lui-même, on lui permet de faire une démarche vers une plus grande libération de lui-même. Évidemment, la difficulté, c'est que dans beaucoup de ces groupes, les leaders ou les gourous ne sont pas des hommes toujours expérimentés dans les voies spirituelles, dans les voies d'intériorité. et dans les voies psychiques. Et dans certains groupes, surtout des groupes de type gnostique, les gnoses, on travaille passablement fort sur la transformation du psychisme.
Je suis obligé de vous demander des définitions, là, quand même. N'est-ce pas? Quand vous dites gnose, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Le gnose, c'est un phénomène religieux tout à fait particulier dans l'histoire des religions. Autrefois, on considérait la gnose comme une sorte d'hérésie chrétienne, mais depuis les études des dernières années, des dernières décennies, on considère la gnose comme un phénomène tout à fait particulier, original, à l'intérieur du fait religieux universel. Ce qui caractérise la gnose, c'est précisément ceci. La gnose se propose comme une voie de salut par la connaissance. Par la connaissance de soi, mais la connaissance de soi considérée comme morceau de Dieu, comme portion du divin, comme étincelle divine. Alors, si bien que il y a deux dimensions de la gnose qui me paraît extrêmement séduisante pour les contemporains. C'est d'une part la dimension de la connaissance. On se dit toujours, dans le fond, que c'est la connaissance qui libère. Et que si on connaissait plus, on serait plus libéré. La connaissance libère de l'ignorance. La connaissance médicale peut te libérer de la maladie. La connaissance psychologique peut te libérer de tes problèmes psychologiques. Alors on s'est dit que si on avait la connaissance absolue, on pourrait parvenir à la libération ultime. Et c'est la raison pour laquelle il y a une séduction assez puissante dans ces mouvements. Et d'autre part aussi le fait que ces mouvements gnostiques, la voie gnostique, valorise considérablement l'individu en lui disant « Mon ami, tu es beau. Tu es beau, tu es un morceau du ciel, tu es une portion de Dieu. »
Mais ça, ces gnoses, est-ce qu'elles sont uniquement chrétiennes ou si elles sont d'origine orientale ou enfin comment ça s'organise ce monde, ce petit monde-là?
La gnose est un phénomène tout à fait particulier qui se revêt de vêtements différents. La gnose est une sorte toujours un phénomène assez syncrétiste, assez parasitaire des grandes religions. Vous avez une gnose du judaïsme, vous avez une gnose de l'islam, vous avez une gnose du christianisme, vous avez une gnose des religions orientales également. Enfin, lorsque nous parlons de gnose dite chrétienne ou islamique, c'est précisément, nous voulons signifier purement et simplement le revêtement, la terminologie que prend la gnose, ses points de référence, enfin, ses transpositions au niveau du vocabulaire, et au niveau de ses points de référence historiques, purement et simplement, mais que la gnose, elle a un schéma théorique qui est identique, quelles que soient ses manifestations culturelles ou ses manifestations religieuses, en se référant à l'une ou l'autre religion.
Alors, vous avez distingué dans votre ouvrage, j'en rappelle le titre, Le cortège des fous de Dieu, vous avez distingué les gnoses, qui font partie de ces religions nouvelles, des sectes qui, elles aussi, sont des religions nouvelles. Qu'est-ce que c'est qu'une secte par rapport à la gnose?
La secte est un phénomène qui appartient à la sphère du judéo-christianisme. Les sectes que nous avons ici sont des sectes d'inspiration chrétienne. Chaque grande religion produit aussi le phénomène de la secte. Il y a des sectes dans le judaïsme, il y a des sectes dans l'islam. La secte est un phénomène qui se situe aussi aux alentours d'une grande religion, mais la secte, elle prétend toujours représenter, surtout la secte chrétienne, puisque c'est de celle-ci qu'il s'agit au Québec, la secte chrétienne, comme les autres sectes, essaie toujours de représenter, prétend pouvoir représenter l'état initial d'une religion à ses départs, c'est-à-dire elle essaie de ressaisir l'état du christianisme ou l'état du judaïsme, lorsqu'il s'agit du judaïsme, au moment initial, c'est-à-dire avant que les corruptions de l'histoire, que les déformations, que les difficultés de l'histoire ne viennent ternir la beauté originelle. Si bien que la secte d'inspiration chrétienne ou la secte d'inspiration biblique, c'est, un effort de la part d'un groupe de personnes qui se réfèrent à Jésus, soit comme Dieu, ou enfin soit comme sauveur, et qui prétend pouvoir s'aboucher directement à la communauté chrétienne primitive en sautant par-dessus les siècles pour pouvoir précisément mettre en œuvre un radicalisme évangélique au niveau éthique, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la morale, Et aussi, je vais employer ici un grand mot, au niveau de l'eschatologie, au niveau eschatologique. C'est-à-dire...
Il faut m'expliquer les grands mots à moi.
Ouais, alors, le mot eschatologie, oui. Bien, c'est le mot qui désigne la fin du monde, cette réalité de la fin du monde, ces réalités de l'Apocalypse dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mmh. À savoir que Linus, elle est convaincue que la société dans laquelle nous sommes est une société qui est radicalement corrompue. Que les institutions sociales et les institutions religieuses traditionnelles sont radicalement corrompues. Ils sont non réformables. Mmh. Même les grandes églises établies sont non réformables. Et donc, nous sommes, pourrait-on dire, à l'état ultime de la civilisation, et vraiment, tout va éclater, tout va sauter, c'est la fin du monde. On lit dans ce qui se passe les signes avant-coureurs de la fin. On prend, si vous voulez, on fait une lecture très futurologique des textes de l'Apocalypse, et on trouve dans cette lecture futurologique et concordiste, c'est-à-dire on essaie de faire une application au temps présent de certains signes qu'on prétend lire dans l'Apocalypse, et on dit voilà, c'est là la fin du monde.
C'est une théologie fiction, si on peut dire.
C'est une théologie fiction dans le sens que elle transpose en termes objectifs et en termes de la réalité des images dont se sert le Nouveau Testament pour décrire une situation existentielle. L'Apocalypse n'essaie pas de définir le futur ou de décrire ce qui se passera dans le futur. L'Apocalypse est un livre de consolation qui essaie de venir au-devant d'une angoisse existentielle des chrétiens devant le mal de ce monde, devant les pouvoirs civils qui écrasent, devant les pouvoirs de l'argent qui détruisent l'humanité.
Mmh. J'ai pas la prétention, Richard Bergeon, vous le comprendrez facilement, et de résumer en une demi-heure un ouvrage de 500 pages. C'est pas pensable, n'est-ce pas? Et c'est pas de toute façon le but de cette rencontre qu'on essaie de réaliser. Je voudrais quand même, justement, à propos de cet ouvrage, connaître davantage Richard Bergeron. Et la question que je voudrais d'abord vous poser maintenant, c'est Richard Bergeron, après avoir écrit ce bouquin, se propose, enfin lance comme projet, un centre de rencontre de ces religions. J'essaie de comprendre pourquoi, parce que il me semble justement que si je pars de ce postulat que j'ai énoncé tout à l'heure, que dans notre entourage en général, les gens que nous qualifions de sérieux, ou bien se méfient de ces religions nouvelles, ou bien les prennent pas au sérieux, pourquoi vous voulez faire un centre de rencontre de... Et pour aller plus loin, je vous dirais que j'étais étonné du fait que finalement, vous traitiez de toutes ces religions nouvelles avec beaucoup de bienveillance.
Précisément, le centre de rencontre dont je parle serait un lieu qui offrirait à la fois aux chrétiens et aux adeptes de ces nouvelles religions un lieu d'échange, un lieu de rencontre, précisément pour permettre à chacun, non pas de discuter de doctrine, mais de se laisser interpeller par l'expérience de l'autre. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant en travaillant sur ces différents phénomènes, ça a été de me confronter à d'autres voies spirituelles qui ont leur grandeur et leurs limites, qui, dans certains groupes, se trouvent exprimées avec des lignes qui sont assez pures, dans d'autres groupes qui sont exprimées avec des lignes assez torses et assez...
Mais qui sont authentiques, si je peux vous comprendre bien.
Qui sont authentiques. Qu'est-ce qui est véritablement authentique d'un bout à l'autre? Qu'est-ce qui est de l'or pur, n'est-ce pas? Même dans le christianisme, lorsqu'on regarde le christianisme, il y a dans le christianisme des choses qui... Et c'est déjà Saint Paul parlait de la paille, n'est-ce pas? Il faut distinguer ce qui est du solide du petit lait, ce qui est paille, de ce qui est métal précieux, métal pur. Il y a à l'intérieur de tout mouvement religieux à la fois du bon, du solide, en tout cas, au moins en ce qui concerne le désir d'une démarche honnête, le désir d'une démarche dans la ligne de la sincérité. Et il n'y a rien comme de se confronter à l'expérience d'un autre, quelles que soient les limites de cette expérience-là, pour se laisser interpeller soi-même et s'obliger soi-même à se remettre en question dans ses coordonnées fondamentales.
Mais on viendra justement au vous-même, je m'y approche, je vais le cerner. Ce que je n'arrive pas à comprendre, par exemple, c'est que dans cette bienveillance que je veux bien admettre, et qui de toute façon est une part de vous-même, donc je l'accepte comme donnée, pourquoi n'avez-vous pas fait appel, par exemple, aux critiques, disons, de type sociologique ou de type psychologique? Pourquoi, par exemple, n'avez-vous pas regardé ces nouvelles religions comme pouvant être, devant l'insécurité du monde, un certain opium, n'est-ce pas, ou une certaine illusion, comme l'aurait fait Marx ou Freud?
Oui, mais... Oui. Vous avez absolument raison. Je n'ai pas abordé la question sous l'angle de la psychologie ou sous l'angle de la sociologie ou de la politique, précisément parce que je ne me pensais pas préparé pour l'aborder sous cet angle-là, parce que je ne suis ni un sociologue, ni un psychologue, ni un politicologue. J'ai voulu aborder le problème dans ce qui m'apparaît essentiel dans son problème. Ce problème, le phénomène n'est pas d'abord un phénomène politique, bien qu'il soit aussi un phénomène politique, n'est pas d'abord un phénomène social, bien qu'il soit aussi un phénomène social, mais cela m'apparaît fondamentalement comme un phénomène religieux. Et je pensais que ce phénomène-là m'offrait plus de promesses de richesse en le regardant dans sa spécificité propre, qui est sa spécificité religieuse, d'une part. Et d'autre part, j'ai pu constater que l'angle sous lequel je l'abordais, c'est-à-dire l'angle de la voie spirituelle, me qualifiait pour l'aborder sous cet angle-là, et me qualifiait en tant que théologien. Précisément parce que, en tant que théologien, j'essaie d'articuler moi-même une expérience spirituelle, non seulement la mienne, mais l'expérience spirituelle de la communauté des croyants à laquelle j'appartiens, de cette communauté des croyants actuelle ou de cette communauté ancienne. Et donc, mon effort d'articulation pour articuler cette expérience de la foi chrétienne me permettait aussi, me justifiait pour essayer d'articuler, d'aller à la rencontre d'une autre voie spirituelle.
Bon, vous venez de dire pour moi justement des choses extrêmement importantes. Articulation d'une expérience spirituelle. Cette articulation, elle ne commence pas avec le cortège des fous de Dieu. Elle commence avec les abus de l'Église d'après Newman. Elle se continue dans obéissance de Jésus et vérité de l'homme. Et, volet, le cortège des fous de Dieu. Comment ça se situe tout ça ensemble? Quelle est la cohésion de tout ça? Quel est le projet de Richard Bergeron?
Il n'y a pas de cohésion théorique, il n'y a qu'une cohésion expérientielle ou une cohésion existentielle, pourrait-on dire. Dans le fond, chacune de ces études a été motivée par une question que je portais. Non pas une question théorique, mais une question viscérale, pourrait-on dire. Un déchirement intérieur, une lutte intérieure.
Une lutte avec l'Église?
D'abord, une lutte avec l'Église, précisément. Une lutte avec l'Église, avec les abus dans l'Église. J'étais longtemps scandalisé par le mal dans l'Église, par les abus de l'Église, les abus de toutes sortes, au niveau doctrinal, au niveau de l'agir de l'autorité.
D'un exercice du pouvoir.
D'un exercice du pouvoir, etc. La façon dont était articulé le sentiment religieux, et les abus de l'histoire. En tout cas, j'étais profondément et pendant longtemps, pourrait-on dire, comme scandalisé. L'Église était pour moi comme une sorte de pierre d'achoppement. Il y avait à l'intérieur de moi-même une sorte de refus qui s'inscrivait petit à petit et qui était de plus en plus profond. Alors j'ai décidé de me confronter intellectuellement à ce problème spirituel que j'avais, dans le fond, un problème existentiel qui me faisait mal. Et précisément, j'ai eu l'occasion de pouvoir aller aux études supérieures en Europe et de pouvoir travailler sur un homme qui, lui-même, s'était coltaillé avec cette question-là. Aussi, dans le siècle antérieur, Newman lui-même, qui, pendant une dizaine d'années, alors qu'il était convaincu, lui qui était anglican, qui était convaincu de la justesse du christianisme de type catholique, qui était convaincu qu'il devait passer à l'Église catholique, il était retenu pendant une dizaine d'années par la vision des abus qu'il voyait dans l'Église catholique. Et il a mené une réflexion pendant 7 ou 8 ans. Et en prenant contact avec sa réflexion, avec sa propre expérience à lui, la façon dont il est arrivé à envisager l'Église à travers les siècles, la façon dont il s'est situé lui-même, en face de lui-même, en face du profil de sa propre vie, et que tout théologien qu'il était, tout homme d'Église qu'il était, il s'est rendu compte que son profil n'était pas si net que celui-là, que ce qu'il aurait voulu qu'il soit, et donc par conséquent que le profil d'une immense institution qui a traversé les siècles à travers toutes sortes de situations, à la fois des situations de persécution, des situations de pouvoir, des situations de pouvoir absolu, lorsque les papes étaient vraiment l'autorité civile et religieuse de tout l'Occident. Or, comment lui se serait comporté devant cela, ayant été au pouvoir? Quelle est la communauté des hommes, les plus spirituels qui soient, aurait pu traverser tout ça sans blessure, sans brisure, sans déchirement, sans malformation, sans hypertrophie, sans atrophie de différentes parties du corps? Et c'est ainsi qu'il est arrivé, dans le fond, à faire une sorte de réflexion, et cela m'a beaucoup éclairé, sur le caractère inévitable des distorsions du corps ecclésial. Ça sera toujours un corps qui sera handicapé, qui sera boiteux, qui aura un gros nez, une grosse oreille, qui aura une jambe plus longue que l'autre ou un bras plus long que l'autre, selon les siècles, selon les temps, selon les circonstances, précisément parce que les forces qui sont à l'intérieur de ce corps-là sont des forces qui sont en relation dialectique. Par exemple, la fonction pastorale de l'Église, la fonction du gouvernement, ou la fonction théologique, qui sont les trois principales fonctions. Ce sont toujours des fonctions qui sont en relation dialectique et qui sont souvent en relation antagoniste. Et ce qui m'a finalement réconcilié, ça a été le grand principe de Newman, que c'est la fonction théologique qui doit être régulatrice de l'ensemble du corps ecclésial.
Mais
pour un théologien,
c'est beau, c'est beau comme justification. mais si on essayait rapidement, là, il nous reste quelques minutes, de voir justement le. Enfin, j'essaie toujours de voir ce projet de Richard Bergeon. Comment justement le cortège des fous de Dieu s'articule à tout ça, tout ce qui précède.
Alors une fois resitué dans l'Église, je me suis resitué à l'intérieur de mes propres engagements comme franciscain. Alors j'ai dû régler mon problème d'obéissance religieuse. Alors, je me suis affronté et confronté à l'obéissance de Jésus pour découvrir que l'obéissance de Jésus n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle en règle générale l'obéissance.
Qui est souvent la soumission, finalement.
Alors que lui, c'est en termes de liberté. Il n'y a rien qui ressemble moins à une soumission que son événement. C'est un refus de soumission. C'est un refus radical de soumission. Mm-hmm. Enfin, tout ça pour dire que mon obéissance, que le cortège des fous de Dieu... Mais une fois que vous vous êtes resitué à l'intérieur de l'expérience chrétienne, à l'intérieur de vos propres engagements, à l'intérieur de la communauté à laquelle vous appartenez, moi je suis franciscain,
oui.
Eh bien, le temps était venu de regarder autour de moi et de confronter ma propre expérience à l'expérience des autres et me laisser interpeller dans mes propres fondements.
Et alors justement, quand on vous interpelle dans vos propres fondements, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur vous, comme chrétien, comme croyant, comme homme religieux, car vous insistez beaucoup sur cette dimension de votre être. Qu'est-ce que vous avez trouvé à partir de cette interpellation?
J'ai découvert une richesse extraordinaire dans la grande tradition chrétienne. Cela m'a renvoyé à la tradition des mystiques, à la tradition des grands spirituels. En travaillant sur ce livre-là, je ne me suis pas référé à des ouvrages, à peu d'ouvrages de théologie. Cette confrontation à l'expérience des autres m'a obligé d'essayer de ressaisir l'expérience chrétienne à l'intérieur de toute la tradition, à essayer de me ressaisir moi-même dans mes grandes coordonnées d'expérience, mais à la lumière de l'expérience des grands, pour ne pas me leurrer moi-même sur l'expérience chrétienne. Et c'est là que j'ai fréquenté les hagiographies à partir des pères du désert, les grands du Moyen-Âge, François d'Assise, les grands de la Renaissance, Ignace, les grands d'ici, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois. En tout cas, je suis passé à travers toute une série de grands témoins pour essayer de saisir à l'intérieur même de leur expérience, ma propre expérience, et en essayant de la décanter moi-même de ce que je pourrais appeler des illusions qui nécessairement s'infiltrent à l'intérieur de ce qu'on appelle, de ce que l'on qualifie son expérience religieuse ou son expérience chrétienne.
Mais est-ce qu'on a besoin précisément de ces gens que vous venez de nommer, Thérèse d'Avila ou François d'Assise ou Marie de l'Incarnation? Est-ce qu'on a besoin d'eux pour être chrétien? Ou est-ce que finalement être chrétien, c'est pas d'établir un contact, un rapport aussi direct que possible avec cet homme qui est Jésus-Christ?
Je pense qu'il n'y a pas d'expérience sans tradition. Je pense que toute la question est là. La secte prétend qu'il est possible de sauter par-dessus l'histoire pour s'aboucher directement à l'événement Jésus et à l'événement de la communauté chrétienne primitive. Faisant cela, elle ne se rend pas compte qu'elle détruit l'histoire. C'est-à-dire qu'elle considère l'histoire comme un principe de corruption, comme un principe de dégénérescence. Et c'est une tentation que nous avons de considérer l'histoire comme un principe de dégénérescence. Moi-même, quand je me regarde, je me trouvais bien meilleur petit gars,
oui, c'est
quand
ce que
j'étais jeune,
demandé.
Bien meilleur que lorsque je suis avec ce que la vie a fait de moi, et ce que la passion a fait de moi, et les difficultés, et les faiblesses ont fait de moi.
Donc, il faut apprendre aussi à récupérer sa propre histoire.
Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a une expérience possible à l'extérieur d'une tradition? L'expérience, elle est toujours située à l'intérieur d'une tradition particulière. Comment se fait-il, par exemple, que l'expérience spirituelle chrétienne se trouve une expression et des modalités différentes? Sinon, parce que c'est une expérience qui est commandée par une tradition et qui recrée la tradition à nouveau. Et là, ainsi en est-il pour l'expérience, par exemple, d'un hindou ou l'expérience d'un mystique juif ou d'un mystique islamique, musulman plutôt.
Ce qui veut dire donc aussi qu'on n'est jamais chrétien seul, on n'est jamais religieux seul, on est toujours avec d'autres. Parce que si on dit tradition, on ne dit pas simplement recours au passé, on dit aussi relation avec des gens actuellement.
C'est dans ton expérience que tu fais ressurgir la tradition, que tu la recrées, que tu lui donnes son contenu. Mais précisément pour que ton expérience puisse être lue comme expérience chrétienne, ben il faut nécessairement un cadre d'interprétation que tu prends où? Sinon, dans une certaine articulation de tradition censée identique à la mienne, si la mienne est honnête, si la mienne est véridique ou authentique, si bien qu'en définitive, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on pourrait appeler des médiations. On a toujours l'idée et la tentation de dire « Ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus, mais le christianisme historique, là, c'est de la foutaise. Mm-hmm. Hein? Jésus, OK, mais le christianisme historique, c'est de la foutaise. »
Jésus a annoncé le royaume, est venu l'Église.
Et
les théologiens.
Et les théologiens ont vu le jour.
Oui, oui.
Précisément, c'est sûr, parce que, pourquoi? Jésus, c'est sûr, a annoncé le royaume. Mais il a annoncé le royaume. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a annoncé le royaume comme étant une réalité présente en lui-même, comme étant une réalité venant par lui et en lui et dans sa parole, comme étant une réalité par laquelle il se laissait mener, dont il se laissait remplir lui-même. Si bien que lorsqu'il a été totalement rempli de la seigneurie de Dieu, lorsque les royaumes des hommes, l'emprise du royaume de l'argent, du royaume de la religion, du royaume du pouvoir politique, du royaume de la bonne réputation. Lorsque tous ces royaumes-là ont été évacués de lui-même sur la croix, il n'y avait plus que le royaume de Dieu présent en lui. Si bien que, dans le fond, la résurrection de Jésus, c'est simplement l'affirmation que le royaume a été totalement réalisé en lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque les chrétiens ont pris la parole après sa mort, ils ont pu parler du royaume, ils ont parlé de Jésus, précisément parce que le royaume avait été complètement réalisé en lui.
Richard Bergeron, je vous remercie.